Paris. À demain. Géopolitique.
Hassan Diop. Sur RFI, la suite de Géopolitique avec nos trois invités toujours au téléphone. Jean Ping, diplomate et ancien président de la Commission de l'Union africaine en fonction au moment de cette crise libyenne. Avec moi ici en studio, Ronnie Broman, expert en droit humanitaire. Et puis Hasni Abidi, politologue et spécialiste du monde méditerranéen et arabe. Alors pour débattre bien sûr de cette Libye dans la tourmente, trois ans après la fin de près de 40 ans de règne de Muammar Kadhafi, comment en est-on arrivé à ce chaos et que faire pour normaliser le pays. Alors, Jean Ping, à la fin de la première partie de ce débat, vous disiez que la Libye est certes appartient au monde arabe de par sa culture, de par sa langue, mais que la Libye aussi est un pays africain et qu'on ne peut pas envisager, y compris par rapport à la situation qui se pose aujourd'hui, à ces luttes de factions, à cette instabilité chronique, on ne peut pas trouver de solution sans les Africains, vous semblez penser ?
Mais bien entendu, depuis le début, nous avons eu une divergence d'approche avec la Ligue arabe. Les pays africains, instruits par l'expérience de la Somalie et d'autres, et même des expériences comme en dehors des pays africains comme l'Irak, s'étaient opposés à toute intervention militaire sous quelque forme que ce soit, même s'agissant de la zone d'exclusion aérienne, no flying zone. L'Union africaine s'était opposée à cela en indiquant les raisons pour lesquelles elle s'opposait et avait préconisé une autre solution qui a été refusée. Et cette solution qu'on semble appliquer maintenant en Syrie, partout, même en Ukraine.
Alors quelle est cette solution ? C'était une sortie de crise pacifique, mais est-ce que vraiment on avait la certitude, M. Ping, que Muammar Kadhafi allait accepter, in fine, avec les pressions de l'Union africaine, à quitter le pouvoir alors qu'il tenait tous les jours des discours contraires ? Il tenait toujours, tous les jours, des discours menaçant son peuple. Son fils tenait toujours des discours menaçant de rivières de sang les Libyens. Est-ce que franchement, Kadhafi était un homme à s'en aller comme ça, grâce à une médiation de l'Union africaine?
On connaît la personnalité ambiguë et complexe de Kadhafi. D'ailleurs, pour nous, il ne s'agissait pas de défendre Kadhafi. Il s'agissait de défendre la paix en Libye, une transition pacifique en Libye. Il s'agissait d'éviter les affres d'une guerre civile en Libye. En fait, tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, l'Afrique voulait les éviter. Et l'Afrique a proposé une solution. Et cette solution à Malabo a été acceptée par Kadhafi. Elle a été acceptée par Kadhafi et nous nous apprêtions à la mettre en œuvre. Évidemment, vous pouvez toujours vous dire, comme vous l'avez insinué, est-ce que Kadhafi allait respecter sa parole? Mais ça, c'est un autre problème. Il fallait nous au moins nous laisser la possibilité d'essayer, de tenter la solution africaine.
D'accord. Roddy Broman, vous voulez réagir?
Oui, je voulais réagir parce que je voulais souligner, on en a peut-être perdu le souvenir aujourd'hui, que le fait d'avoir fait de cette situation et de cette intervention militaire internationale une intervention en faveur des droits de l'homme, de la démocratie, bref, du bien, a interdit d'une certaine manière, a disqualifié par avance toute tentative de médiation. Parce qu'une tentative de médiation, ça n'est plus le bien contre le mal, c'est un compromis, nécessairement. On lâche ici, on accepte. Et plusieurs, Jean Ping rappelait les tentatives non réussies de l'Union africaine, il y a eu également celle de la Turquie, à deux reprises, me semble-t-il. Il y a eu au total, entre février et avril, que déjà après la guerre, quatre tentatives de médiation. Aucune n'a attiré l'attention. Toutes ont été méthodiquement écartées comme une sorte de lâcheté, d'esprit de Munich. C'était ça le grand mot qui était lâché à l'époque. Donc ça veut dire qu'en face de soi, on avait Hitler qui allait conquérir le monde, asservir l'humanité. Et face à cela, des collabos qui ne pensaient qu'à une chose, c'était à sauver leur peau. Vous voyez, cette espèce de caricature morale, cette intimidation, ce chantage permanent. Voilà ce qui a caractérisé à la fois les interventions morales, les interventions d'humanité en général, et celle-ci en particulier. Et plus spécifiquement, je voulais réagir aussi à ce que vous venez de poser comme problème, à savoir, Kadhafi aurait-il ou non quitté le pouvoir ? Mais qui a mandaté la communauté internationale organisée pour dire à tel ou tel chef d'État que sa place n'est plus au pouvoir?
Tout simplement parce qu'ils estimaient qu'il avait une attitude criminelle contre son peuple.
Oui, alors c'est ça qui est vraiment frappant. C'est le jour où il a été accusé d'avoir lancé son aviation contre des manifestants de Tripoli, c'est-à-dire vers quelques jours après les premières manifestations à Benghazi. Ça se situe vers le 21-22 février, alors que les premières manifestations datent du 15-16 février. Donc en l'espace d'une semaine, il aurait lancé ses bombardiers, ses chasseurs contre des manifestants, ce qui a entraîné, de la part de Sarkozy, Cameron et Obama, la réaction selon laquelle un chef d'État qui lance son aviation contre son peuple n'est plus digne de gouverner, il doit quitter le pouvoir. Or, il n'y avait pas de manifestants à Tripoli ce jour-là, et il n'y a jamais eu de chasseurs envoyés pour les mitrailler, pour les strafer. Depuis. Donc, c'était l'un des bobards que j'évoquais tout à l'heure. Et de là est venue cette idée, Kadhafi doit partir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, François Hollande ou Cameron ou Obama disent Netanyahou doit partir parce qu'il fait un massacre
à Gaza.
Est-ce qu'on a dit à Bush, vous devez partir parce que vous allez semer le chaos, la pagaille, l'horreur au Proche-Orient en 2003? Non, c'est pas comme ça que se règne la vie politique. Ouais. Donc je pense qu'il faut rappeler cela également.
C'est le principe. Jean-Pierre, je vais vous redonner la parole, mais juste, je voudrais une réaction justement de Hassani Abidi. Avec le recul, il y a eu tout de même une forme d'instrumentalisation du droit international, en tout cas de l'ONU et du Conseil de sécurité, par ceux qui, coûte que coûte, se comportaient en va-t-en-guerre contre Kadhafi. Et on suppose, et même certains le disent clairement, qu'il y avait d'autres motivations que de sauver ce peuple libyen d'un massacre programmé. Hassani Abidi.
Alors, il faut dissocier d'abord l'utilisation, l'instrumentalisation par la communauté internationale, et par les grandes puissances du droit humanitaire, et la situation elle-même. On a l'impression que Kadhafi était un homme intègre, est un homme démocrate. Il ne faut pas oublier qu'en 1996, Kadhafi, avec Sunusi, a tué 1600 personnes en une heure
dans la prison
à Bouslim. Oui. Donc on sait le palmarès et le CV brillant de Kadhafi en termes de droits de l'homme. Mais en tout cas, pour la Libye, pour les Libyens, Kadhafi n'était pas un démocrate. C'est-à-dire on ne l'a pas découvert.
D'accord.
Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, bien entendu, c'est que, vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour les organisations humanitaires. Quand je prends le rapport de Human Rights Watch ou d'Amnesty International qui parlait de crimes contre l'humanité, aux six pays qui lancent un mandat international, donc il faut nous dire, est-ce qu'on doit croire ces organisations humanitaires qui font un excellent travail ou pas? Quand vous avez une partie des Libyens eux-mêmes qui disent le plan de l'Union africaine n'est pas bon pour nous parce qu'il insiste sur le maintien de Kadhafi et sa famille. Vous savez combien? Moi, j'ai recensé 7 appels de cessez-le-feu. Aucun n'a été respecté par Kadhafi.
Kadhafi, 40 ans de règne, mais Kadhafi n'a pas toujours été infréquentable, Hassani Abidi, par ceux qui ensuite l'ont mis à mort, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il a été reçu ici à Paris, c'était un partenaire, le fonds d'investissement libyen opéré sur la place financière de Londres, et ça n'a jamais gêné personne. Alors pourquoi ce déclic soudain? Pourquoi Sarkozy, pourquoi Cameron ont comme ça soudain ouvert les yeux, alors que quelques semaines, quelques mois avant, Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, rendait visite à Kadhafi?
Il était même son conseiller.
Il était même son conseiller. Et que Berlusconi était un proche de M. Kadhafi.
Parce que l'éthique, en relations internationales, ça s'arrête aux frontières.
Voilà.
C'est tout. Mais ça n'empêche pas que la situation des Libyens était catastrophique sur le plan des droits humains sous Kadhafi.
Mais alors, pourquoi est-ce qu'il ne fuyait pas? Comment se fait-il qu'il y ait des réfugiés aujourd'hui qu'il n'y en avait pas avant? Mais si la situation était si catastrophique. Moi qui travaille dans des camps de réfugiés depuis 35 ans, je peux vous dire que c'est quand même un indicateur assez fidèle d'une situation de tension et de violence. Or là, il n'y avait Kadhafi était un dictateur. Je vous l'accorde volontiers. Mais si on se met à éliminer toutes les dictatures de la planète, on met le monde
en danger. Attendez, je vais donner la parole à Jean-Ping. Jean-Ping qui s'impatiente à l'autre bout de fil.
Écoutez, d'abord, je voudrais dire que en Tunisie, la situation de la Tunisie est connue. Et qui pouvait imaginer que Ben Ali allait quitter le pouvoir comme ça? Il est pourtant parti, sans intervention extérieure. En Égypte, qui pouvait imaginer une seule seconde que Moubarak allait partir? Moubarak est parti, sans intervention extérieure. Les problèmes des droits de l'homme se posaient partout. La solution obtenue en Tunisie et en Égypte est quand même bien meilleure que ce qui se passe à l'heure actuelle en Libye, en raison de toutes les accusations concernant les droits de l'homme. Donc, on ne peut pas dire que Kadhafi allait refuser notre solution. Et notre solution, c'était justement de rétablir en Libye un état de droit. Lorsque j'ai vu Mme Clinton, j'ai dit à Mme Clinton, vous envisagez de changer un homme. Nous envisageons de changer un système. Et c'est clair.
Monsieur Ping, il a raison, il pose une bonne question. En Égypte, Moubarak est parti parce qu'il y avait un contre-pouvoir, l'armée, qui avait peur de perdre le tout, perdre le système, et a préféré sacrifier l'homme. En Tunisie, il y avait une armée connue, 35 000 hommes, c'est vrai, mais quand même républicains. Ils ne voulaient pas que la situation dégénère, puisque les manifestants avaient promis d'aller jusqu'à Carthage. Mais en Libye, il y avait le vide, ce qu'on appelle en Libye les hommes de la tente. Il n'y avait que Kadhafi, et les hommes autour de lui, tous des va-t-en-guerre, vas-y, on est avec toi, et le peuple est avec toi. C'est-à-dire, il n'y avait pas un contre-pouvoir capable de dire Kadhafi, est-ce que c'est l'intérêt de partir? Souvenez-vous de cette phrase, des Américains nous offrant à Kadhafi une sortie sécurisée. Et même les Égyptiens, alors qu'ils étaient dans une situation difficile, ils ont offert leur médiation. Les Algériens, beaucoup de pays ont offert à Kadhafi et à sa famille une sortie pour épargner à la Libye ce sort qu'on connaît aujourd'hui. Il a refusé. Il a maintenu. Il s'est fait l'islam. Souvenez-vous de son discours. Vous allez voir, la Libye va se transformer en rivière de sang. Donc, entre l'intérêt d'un peuple et d'un État et l'intérêt d'un clan de Kadhafi, Kadhafi a choisi le sien.
Jean-Ping, oui, Jean-Ping.
Avec cette vision-là que défend M. Habibi, vous avez échoué. Vous avez plongé la Libye dans la situation que l'on connaît et toute la sous-région.
Voilà, M. Habibi estime que le principal artisan, finalement, des malheurs de la Libye d'aujourd'hui, Ronnie Broman, Jean-Ping n'est pas du tout d'accord, que le principal artisan, celui qui a fait le malheur de cette Libye, du délitement de l'État, des conséquences de cette révolution, ce ne sont ni les forces de l'Alliance, ni le Qatar qui finançait à tour de bras, mais c'est l'unique Kadhafi. C'est tout de même peut-être un peu court.
Oui, je trouve ça très court, monsieur Habidi, en effet.
Moi, j'ai pas
et
dit
je
ça.
Remarque,
vous,
et
faites
je
une, remarque. Vous faites une surinterprétation.
Non. Vous avez dit que c'est Kadhafi qui est à l'origine de tous les problèmes
en grande partie,
que la
Libye
connaît aujourd'hui. Eh bien, naturellement, puisqu'il est resté 40 ans au pouvoir, il ne peut pas être innocenté de la situation de la Libye d'aujourd'hui. Là-dessus, je vous rejoins entièrement. Mais votre manière d'exonérer la communauté internationale, enfin la partie de la communauté internationale qui est intervenue dans le champ de ruines qui est devenue aujourd'hui la Libye, celle-là, je la trouve un petit peu légère. Car c'est supposé que couper la tête aux tyrans, ça permettait de faire émerger des forces politiques qui allaient ensuite s'organiser. C'est-à-dire, c'était une conception, à mon avis, extrêmement naïve de la démocratie qui existerait à l'État natif dans une gangue qu'il s'agit de briser et qui lui permettrait ensuite, une fois cette gangue brisée, de s'épanouir. Or, l'histoire nous montre que ça n'est pas comme ça que cela fonctionne. Donc oui, Kadhafi a évidemment des responsabilités, mais je note, comme cela a été quand même remarqué partout ailleurs, que tout en étant un régime ultra-autoritaire, corrompu, qui pratiquait la torture, les arrestations arbitraires, le népotisme, tout cela, ce sont des réalités qu'il serait totalement absurde de nier. Il assurait à son pays une certaine stabilité, une certaine sécurité, que par la suite, on a vu disparaître.
Voler en éclat.
Donc c'est de cela que nous parlons
aujourd'hui. Si l'on engage des Européens, c'est toujours... comme ça, tant qu'un chef d'État qui assure la stabilité et qui assure la sécurité, est-ce que le pétrole qui arrive, et on n'a pas des petits noirs qui arrivent et des Africains ou des Maghrébins qui arrivent, c'est un président avec lequel on peut composer. Mm-hmm. C'est vraiment, c'est ça. C'est une approche très égoïste, mm-hmm. alors qu'il est bien souffré à l'intérieur.
Votre générosité est cher payée, monsieur Abidi. Votre générosité à vous, ce sont les Libyens qui la payent cher.
Tu es Kadhafi, ne faisait pas partie du mandat. C'était une grande erreur monumentale de la part de ceux qui
ne faisait pas partie du mandat.
Absolument pas.
Voilà.
Absolument pas.
Que ça a été une erreur.
C'était une grande erreur. C'est plus un crime qui a été commis de tuer Kadhafi de cette façon parce qu'il a droit
mais
à un traitement
de Tripoli
humain et ses enfants. Le bombardement de Tripoli.
Ça faisait partie du mandat. Le bombardement de Tripoli
de Benghazi ne faisait pas partie aussi. Je dirais aussi ne fait pas partie, absolument pas. La communauté internationale est responsable par les limites de son intervention. Et elle est encore plus responsable de le non-accompagnement, d'avoir abandonné les Libyens à leur sort. Et c'est aux Libyens de construire ce pays. Et je reviens sur une chose importante. Le président, on oublie toujours, le président yéménite. Le Yémen est un pays comme la Libye, plein d'armes. Il n'y a pas de pétrole. Et on a obligé le président yéménite à partir. Parce qu'il y avait, partir. Et on a obligé tous les belligérants à s'unir autour d'une même table, sinon ils auront un sort comme le président yéménite, et ça a été fait. Et c'est pourquoi je dirais qu'il y a une responsabilité des Libyens, mais seuls ils n'arriveront pas.
Monsieur Abidi, pourquoi il se déroule seulement un mois entre le moment des premières manifestations de Benghazi et l'intervention de l'OTAN? Parce que les bobards propagandistes nous disaient, attention, c'est le carnage, c'est le massacre. Autrement dit, on a artificiellement accéléré le rythme des événements, alors qu'au Yémen, ça fait tout de même plusieurs années que l'on négocie, que l'on discute, que l'on s'affronte, que l'on prononce des trêves. Là, il s'est passé 4 semaines et demie entre les premières manifestations de Benghazi et l'arrivée des rafales français à Benghazi. On a voulu cette guerre pour des raisons qui ne sont pas, à mon avis, encore éclaircies. On a fabriqué les justifications qui permettaient d'y aller et aujourd'hui, on pleure sur les pots cassés.
Je vous donne la parole pour répondre brièvement à Rudy Broman. Ensuite, je me tourne vers Jean-Ping. Hassani Abidi, oui.
Non, mais les
raisons cachées, oui, on parle d'enjeux pétroliers.
Écoutez, moi, je suis chercheur à l'université, je n'ai pas accès aux archives des services de sécurité, je peux pas vous dire s'il y a un théorie complot. D'accord. En tout cas, ce qu'on peut dire une chose, c'est que s'il y avait deux dirigeants qui n'avaient pas intérêt à ce que Kadhafi reste au pouvoir, c'est le président français Sarkozy de l'époque et bien sûr Cameron. Ils n'avaient aucun intérêt à ce que Kadhafi reste.
Pourquoi? Je
ne sais pas, mais en tout cas pour eux, le départ était beaucoup plus intéressant. Et autre chose aussi importante, c'est que pourquoi, à la différence du président yéménite, Kadhafi n'a pas voulu partir. Le président yéménite, et ça répond à votre question, ça n'a pas pris beaucoup de temps, parce que on a mis une pression, ce président, on lui a dit, soit vous partez, soit vous aurez un sort devant la CPI. D'accord. Il a préféré partir. Il a même été soigné aux États-Unis, le président yéménite, alors qu'on disait qu'il était coupable de crime.
Voilà, Jean-Ping, vous aurez le dernier mot. Hein. Vous étiez donc à la tête de l'Union africaine pendant cette crise libyenne. Un épisode que vous relatez dans un essai intitulé « Éclipse sur l'Afrique », sous-titré « Fallait-il tuer Kadhafi ?» Votre réponse est bien sûr non. Mais tout de même, le fait que l'Union africaine ne soit pas parvenue à faire entendre sa voix, à faire accepter son plan de paix, ça illustre tout de même, Jean-Ping, la faiblesse et l'absence d'influence sur la scène internationale de cette institution de l'Union africaine.
Tout à fait, je suis d'accord avec vous, parce que, vous voyez, pour ceux qui ont eu le livre, je ne défends pas du tout Kadhafi. Les accusations de M. Abidi contre Kadhafi sont reprises même au-delà dans mon livre. Ça veut dire que la solution était mauvaise.
Alors, juste un dernier mot, Hassani Abidi, comment voyez-vous cette sortie de crise? Est-ce que le pays va continuer à s'enfoncer comme ça dans cette instabilité?
Écoutez, je vous dirais sincèrement, j'enseigne la transition et j'ai regardé du côté d'Amérique latine. Oui. Comparaison n'est pas raison.
Bien sûr.
On juge maintenant, on dit le printemps arabe a fait long feu, etc. En 3 ans, on veut vraiment que la démocratie s'installe avec un pluralisme et avec un respect des droits humains. C'est quand même pas trop demandé à ces populations. D'accord. qui ont vécu pendant l'autoritarisme le plus dur pendant plusieurs décennies. Toujours, il y a deux institutions qui s'effondrent, si on n'est pas l'institution. C'est la sécurité et la justice. Parce qu'elles étaient tissé, créé autour d'une seule personne. Et la chute de cette personne, c'est la chute de tous ces appareils. Ces pays-là, la Libye, la Tunisie, l'Égypte, ont besoin de plusieurs années, mais à condition qu'il y ait justement une prise de conscience de construire ce pays-là. Et on ne peut pas juger ou juger leur expérience pour dire, regardez, vous étiez meilleur sous les régimes autoritaires, ce que je trouve quand même injuste.
Voilà donc la Libye hein, confrontée à une crise profonde et durable.
Tout à fait ce que dit Monsieur Avidi, je suis entièrement d'accord.
Voilà, c'est la fin donc de cette émission de Géopolitique. Merci à vous Jean-Ping. Hein. Je rappelle que vous avez publié Éclipse sur l'Afrique, fallait-il tuer Kadhafi aux éditions Michalon à Paris. Merci à vous Ronnie Broman et à vous Hasni Abidi. Apolline Verlon-Raison a réalisé Géopolitique et l'info revient dans quelques instants sur RFI.